Donc on continue sur les
musicaux, là, oui. C'est intéressant ce que tu disais, le paradoxe entre une écriture qui raconte une sorte de déshérence et de dérive dont on voit bien qu'elle est quand même implacable, enfin, c'est inexorable, il y a quelque chose d'une cruauté, d'une fermeté incroyable dans le fait que ça va dans le mur, quoi. Et qu'en même temps, le récit n'arrête pas de se sauver, ou de sauver quelque chose de cette catastrophe.
Oui, absolument. Oui, c'est comment faire. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est-à-dire mon musical, c'est par hasard s'il appelle ça musical quand même. C'est-à-dire que comment d'un vide, d'un désert, on continuerait à faire du théâtre, parce que c'est éminemment une pièce de théâtre, même si ça s'appelle musical. C'est-à-dire comment, comment finalement raconter rien, on peut continuer à faire du théâtre. Et aussi musical. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé sur la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai considéré que chaque pan de parole était en lui-même un numéro musical. C'est-à-dire le numéro de musical est devenu simplement le fait de le raconter. Avec cette idée peut-être fausse, mais bon, c'est notre idée. Ça, c'est aussi assez beau dans le texte de la gare. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a séduit très fort. C'est les didascalies. La fille regarde, les garçons, je crois. Ils sont en train de danser, peut-être. C'est-à-dire cette énorme place qu'il laisse à celui qui va travailler sur son texte. Et pensant donc que chaque pan de parole était un numéro de musical en soi, et imaginant que cette fille, parce que j'y crois, vient vraiment du musical, alors elle a comme ça, elle inscrit comme ça dans son corps, dans une idée d'un déplacement dans l'espace, quelque chose qui aurait vraiment à voir avec le musical. Voir les costumes, voir les positions qu'ils ont, des deux boys, les mains sur les bretelles, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une imagerie qui serait une imagerie de musical, quoi.
Et pourtant, tu dis que ce dont ça parle, c'est...
c'est du théâtre musical. Oui, mais c'est du théâtre, c'est une représentation de théâtre. D'ailleurs, c'est ça qui est aussi bien, on s'est beaucoup amusé. Mais ça pouvait se sentir à la lecture. À la lecture, ça se sentait. C'est-à-dire que ils sont là, en même temps, ils sont pas vraiment là, ou ils disent qu'ils sont pas. Ils disent, ils parlent, mais ils disent qu'ils mentent, ou qu'ils trichent. Il semblerait, je dis bien, il semblerait qu'on est dans le présent, mais aussi on est dans le passé. Et puis on se projette aussi dans le futur. Et tout. Donc, ça donne très, c'est très riche en fait, quoi. Ça donne beaucoup de matière pour travailler, quoi. Et donc c'est pour tout ça. Alors bon, ça, tout ça, ça vient dans le travail, et bien évidemment c'est pas la première lecture que tout ça est sorti, mais il y avait beaucoup de choses quand même dans la lecture qui sont arrivées.
Et immédiatement t'as pensé à ces acteurs là
Ah mais il s'était imposé par la troupe. Non mais c'est-à-dire que j'aurais pu, mais ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. J'aurais pu dire à Jean-Louis, lui, je vais travailler avec d'autres acteurs. Mais bien évidemment, c'était... Jean-Louis avait d'un seul coup pensé que ça pourrait tout à fait coïncider. Campli lui a fait lire cette pièce, le fromager l'a mis en scène, et puis Jean-Claude Bonradage, on s'en perdait, c'est mignon, je voulais les personnages. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Non mais pour revenir sur l'idée de... D'ailleurs, elle est encore à venir, cette mise en scène, comme toujours, on dirait. Mais le début de la pièce est un truc assez incroyable. Il semblerait que la fille, elle repasse toutes les salles sur lesquelles elle a joué. Mais en même temps, on n'a pas l'impression que c'est déjà le début du numéro de musical. Bon, ça c'est lucide à la fin. Hein. Elle dit, finalement, ça vous a plu le spectacle, hein, toutes ces petites anecdotes et on continue à faire, on triche, on fait semblant, ok. Moi j'ai toujours essayé j'y suis pas arrivé, hein. Mais démarrer comme si, effectivement, puisqu'ils en parlent beaucoup, les salles sont vides, c'était essayer de trouver une posture d'acteur sur le plateau, éminemment dans une représentation théâtrale, mais qui joue comme s'il n'y avait personne dans la salle. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile.
C'est sûr pour l'acteur.
Il y a des petits indices, il y a des petites choses. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais... Finalement, quand il n'y a personne dans la salle, on pense à des Italiennes, où il y a une forme de liberté, entre guillemets. On accepte plus facilement des accidents,
On se sent moins en danger, peut-être aussi.
Oui. On se sent moins en danger. Il y a quelque chose aussi sur le temps de la représentation. D'un seul coup, on peut sortir d'un temps de représentation. Bon, on peut jouer sur ce temps-là, c'est-à-dire un temps qui serait un temps de la réalité, genre, j'épluche une orange, je fume une clope, puis ça prend 5 minutes, et puis. Enfin, on a essayé de jouer avec ça, c'était très complexe. D'ailleurs, ça doit être un exercice passionnant, ça. S'amuser à travailler sur des acteurs. à l'intérieur d'une représentation, et puis c'est pas une représentation.
C'est-à-dire que la
préoccupation n'est pas d'être là, mais peut-être d'être plus dans un truc de l'intériorité, ou du partenaire, je sais pas.
Et ça se complique encore du fait qu'il devrait y avoir quelqu'un.
Oui.
Parce que la hyène, elle n'est pas cruelle, elle n'est pas douloureuse, au besoin, c'est bien sa nature que d'être face au vide. Tandis que là, le vide est cruel, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est frappant.
Mais voilà, donc c'est tout ça, quoi.
Ce qui est très frappant, c'est que chez Lagarce, il y a tout un chapelet comme ça de pièces qui parlent de ça, du théâtre au passé, un théâtre qui a eu lieu, un théâtre qui a été lumineux, et dont on n'a plus que l'image rétinienne, quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Salon Numéro, il y a bien sûr Salon Music Hall, il y a tout un fil comme ça de personnages qui ont été dans la grandeur et dans la lumière, et tout d'un coup,
le voyage à la haine, non, pas vraiment.
D'une certaine manière, il parle aussi de l'ombre, il parle de la vraie lumière aussi.
Et puis les autres, cette pièce formidable que j'ai. Bon, j'avais vu la mise en scène de Joanneau, juste à la fin du monde, mais je suis allé voir aussi la mise en scène qu'il a faite avec les élèves du conservatoire de Pays Lointain. J'ai pas vu Rancignac. J'ai trouvé le travail très très intéressant. Et j'ai trouvé cette chose formidable. Ça ne m'était pas apparu aussi fort à la colline, parce que c'est les mêmes textes, sauf que là, les parents disparaissent dans le pays lointain, alors qu'ils sont dans juste la fin du monde, je crois, c'est quelque chose comme ça. Là, on n'a pas la mère, on a la bande de camarades, et puis le frère.
C'est le contraire, les parents reviennent, enfin, sont...
Les parents reviennent dans le pays lointain ?
Oui, oui.
Mais là, ils n'étaient pas traités alors.
Ils n'étaient pas traités dans l'ancienne Joanneau.
Mais je me dis, c'est quand même assez incroyable. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est quelqu'un qui vient pour dire, qui ne dit rien, et qui laisse de fait toute la place aux autres pour se débonder. C'est un truc, une chose magnifique.
C'est une dramaturgie très singulière.
Il a tellement de choses à dire, finalement, que ça laisse énormément de. Ne disant rien, ça laisse tout cet espace-là, c'est-à-dire cette chose énorme. Ça sorte et ça débonde, et ça, c'est comme une étoile noire, enfin comme un trou noir, enfin tu vois, c'est une espèce de roi, ça s'engouffre dans ce non-dire.
Oui, ça travaille toujours là-dessus, les pièces de Lagarce. Sauf que celle que tu dis, ça me paraît appartenir à un autre chapelet de pièces, c'est les pièces sur le retour. Alors que les pièces dont je parlais, les pièces de théâtre, sont les pièces sur le voyage, sur le fait qu'on part et on avance, c'est avec qu'on avance dans le monde, mais on avance.
Oui.
Alors qu'il y a chez lui aussi le mouvement retour.
Il semble que ça parle
deux fourniers pièces. Ça ne veut pas dire qu'elles iront entre toutes, mais on a l'impression qu'il a réfléchi sur ces deux choses-là. Comment on se construit, et puis comment à un moment donné, il faut. Ben, la construction, elle suppose bien non pas revenir en arrière d'ailleurs, mais de revisiter, de réactionner, et de rendre du coup, je trouve une invention théâtrale magnifique, rendre simultané des temps, ce que tu as dit tout à l'heure d'ailleurs, rendre simultané des temps qui ne devraient pas l'être.
Ah oui, ça on le trouve beaucoup, énormément. Et d'ailleurs, ça pose un problème. Non, ça pose un problème, une question en tout cas. Comment tu peux réaliser ça?
Comment le traiter, c'est
d'une façon très, très. J'ai fait ça d'une façon très, très naïve. Mais, enfin, pas naïve. Je trouve aussi, c'est peut-être une erreur. On m'a critiqué d'ailleurs là-dessus. Mais je trouve que ça existe dans son écriture aussi. On pourrait parler d'une forme de redondance, quand même, dans l'écriture.
De réitération, de.
Récurrence, répétition, mais redondance aussi. Je le dis, je le montre, je le fais un peu, parfois. Tu vois, il me semble parfois. Et donc, finalement, c'est Lagarce qui donne la solution. C'est-à-dire qu'ils sont dans le passé, ben, montrons-le. Créons un espace sur le plateau qui sera l'espace du passé, avec la lumière, avec la musique, avec une attitude d'acte. C'est assez simple, finalement. Et comme on a construit ça, c'est justement l'idée du grand plongeoir vient l'idée du temps pour moi, c'est-à-dire le passé étant lointain, le présent au centre et l'avenir à la face, ils sont sur un plongeoir. Mais c'est vraiment Neda, je pense que c'est en travaillant, un jour tu fermes les yeux comme ça et dans un songe tu vois un plongeoir et tu te dis, c'est évident, c'est sur un plongeoir qu'il faut qu'il joue. Et donc il joue sur un plongeoir, enfin ou sur un, je ne sais pas comment on appelle ça, oui un plongeoir.
Et tu as envie de continuer cette exploration dans le travail de Lagarce? C'est une écriture qui te donne envie de.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une écriture qui déjà te permet de ne plus lire de la même manière de théâtre.
C'est-à-dire
Ben, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu prends. Enfin, c'est pas nouveau, mais je trouve que le théâtre, hein, c'est quand même c'est une banalité, mais c'est une écriture, mais c'est une musique, c'est quelque chose comme ça. Et travaillant là-dessus et voyant la force que ça a, mais même à écouter, je vois les gens découvrent Lagarce, mais ils découvrent cette écriture, cette on peut parler de musique, on peut parler de rythme, on peut parler de tu vois. Et je pense que c'est quand je dis je ne lis plus le théâtre de la même manière après avoir lu Lagarce, c'est-à-dire que oui, en ce moment, en tout cas, j'ai besoin de sentir de sentir du rythme, de sentir de la musique, de sentir une forme, de sentir quelque chose, tu vois, et pas ou alors il faut que le sujet soit vraiment très 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 fort. Enfin, je connais pas très très bien l'histoire du théâtre tout ça, mais naïvement j'ai l'impression qu'il y a les sujets et puis la prose, quoi, Fassbinder, etc. Et puis il y a des sujets et puis aussi une écriture, un style, Coltès, tu vois, les gens qui parlent finalement de façon plus prosaïque, et puis dont le sujet est tellement fort, finalement ça donne des œuvres magnifiques, et puis il y a des gens qui sont aussi dans le sujet, mais aussi dans l'écriture, et ça...
C'est juste de parler de musique
pour avoir travaillé sur Coltès, par exemple, je faisais Frangin dans Zoukou, il y a 2 pages de texte, c'est vraiment... c'est une histoire de musique, vraiment, c'est-à-dire que... quand il n'est pas question de démonter l'écriture et de faire des césures là où il n'y en a pas, mais quand il est question vraiment de coller à l'écriture et d'être de tenir des phrases le plus loin possible, parce que parfois il y a des phrases incroyables avec des mots qui se répètent, des adjectifs, et qui sont là comme des coups de cymbales ou à l'intérieur de la phrase. Quand il est question de faire ce travail-là sur une écriture comme celle de Coltès, alors ça paraît très, très évident, quoi, je veux dire, très fort, quoi. Et ça, on l'a pas chez Fassbinder, par exemple, ou même... Si chez lui-même, ça existe aussi.
Les Allemands sont moins portés sur la musicalité de la langue. D'ailleurs, souvent, les dramaturges ou les metteurs en scène allemands disent que les écrivains français, enfin le cadre, ils mettent tout de suite en avant Coltès, Lagarce, puis bien sûr, Gabilly, ouais, ils disent que c'est une sorte de lyrisme pour eux, alors quand ils sont un peu critiques d'un autre temps, quoi. Qu'il y a une sorte de musicalité poétique dans l'écriture française. Qui leur paraît assez loin du réel, quoi, pour dire vite. Hein. Je vois un peu ce qu'ils veulent dire, même si j'ai l'impression que Lagarce parle très concrètement et très simplement de. Ça ne me paraît pas du tout s'éloigner du monde, mais je vois bien ce qu'ils veulent dire quand ils parlent d'une sorte de musicalité que lyrique.
Oui.
C'est pas faux.
On parlait de Laurent Godet, on peut dire. Il y a de ça aussi chez
Absolument,
lui.
Absolument, oui. C'est vrai.
Une espèce de chant comme ça, très. Espèce de pan très 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 massif, très compact d'écriture, je trouve, des choses qui se développent très lentement, comme des choses qui roulent, qui avancent, comme ça, très puissantes. Moi, je trouve ça très 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 intéressant. Quoi.
Et t'as d'autres projets
ou... Oh ben non, mes projets, c'est des projets d'acteurs, hein, c'est-à-dire je vais reprendre donc le Personne Kretz catégorique. Ou alors là, on est éminemment dans le sujet. c'est les Bas-fonds de Gorky version Stockholm 2000, avec tout ce que la société peut produire, enfin je sais pas si c'est très bien ce que je viens de dire, enfin tout ce que la société peut abriter de marginaux pour des raisons X ou Y, toxicomanes, etc. Alors, ce qui est très très beau dans la pièce de Noren, c'est-à-dire que on commence à être habitué à voir ces gens qui sont dans la rue. Ils font maintenant un peu partie du paysage. Ce que nous dit Noren, c'est que d'un seul coup, il nous dit qu'ils ont des histoires. Voilà. Ils sont nés quelque part, ils ont grandi. Pour certains, ils ont fait des études, certains, ils ont des enfants. Et puis aussi, ils ont un point de vue. Ils regardent la société dans laquelle ils vivent. Et certains d'entre eux la critiquent. Et ils ont des idées, ils ont appartenu à des groupes d'extrémistes, etc. Je parle de mon personnage en particulier, qui est un alcoolique, qui est un enfant. Qui est séparé de sa femme, qui vit dans la rue, mais qui a été à une époque un peu trotskiste, un peu. Qui a cru dans la social-démocratie, puis il se retrouve sur le carreau. Donc à un moment donné, il y a un long, long texte comme ça, où il compare la mort de la social-démocratie, ses rêves-là, avec la mort d'un pote à lui qui a eu le cancer. Enfin bon, c'est très, 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 très beau, enfin, je veux dire, très fort, quoi, très poignant. C'est une pièce qui dure 8 heures, donc c'est aussi une immersion comme ça, très, très dense là-dedans. Et ensuite, on va travailler sur Tchekhov. Jean-Louis veut monter Platonov. Il m'a proposé de jouer Platonov, j'ai pas refusé. Donc voilà. Et ensuite, tout ça aux Amandiers de Nanterre. Et ensuite, on va travailler avec Cocos sur le songe d'une nuit d'été. Parce que même si on ne parle pas encore de troupe permanente à Nanterre, on a quand même envie de travailler avec un noyau d'acteurs, au moins sur la demi-première saison, Jean-Louis. Parce que pour nous, ça reste, après 6 ans de TNS, ça reste important, si tu veux, pour le public, enfin pour les spectateurs, et même pour la maison, de comme ça d'être traversé par un groupe quand même, un peu, quoi, tu vois. Donc c'est ça les projets. Et puis on me demande de la mise en scène, des choses comme ça, alors je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois qu'il faut, il faut découvrir un texte, donc je lis beaucoup, mais voilà.
Et tu lis quoi comme chose
Bah, j'ai lu Motown, là, j'ai lu des pièces de, je ne sais pas si on peut dire des pièces de jeunesse, c'est du Brian Fenian, et j'ai lu Chicken, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis en train de lire Outside du Duras, bon, c'est, je sais pas si je peux faire un premier là-dessus. Et puis on a reparlé avec, avec Jean-Louis Martinelli qui veut faire un, qui veut faire quelque chose, enfin, qui aimerait bien mettre en chantier quelque chose autour de l'Algérie, l'écriture. Ça serait de l'écriture de là-bas ou de l'écriture des gens qui ont immigré. Ou... Et on a reparlé d'une chose que j'ai lue, que je suis en train de relire et que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'étoile d'Agé d'Aziz Chouaki. Voilà, on a contacté Aziz. Voilà, il y a aussi, il y a encore toujours chez Jean-Louis la volonté quand même de ramener à Nanterre, comme il a pu le faire à Strasbourg, avec Jacques Serena, Biette. Bon, ça s'est pas toujours bien passé, mais Jacques Robotier, des auteurs quand même, de les ramener un peu près du plateau, essayer de les inscrire
là-bas. Ça a toujours été, pour revenir à Lagarce, le drame de Lagarce, qui se voyait plébiscité en tant que metteur en scène, quand il montait Molière, par exemple, et qui, en tant qu'écrivain, a longtemps été pas pris très au sérieux, enfin, considéré avec beaucoup de réticence, en tout cas. À l'institution, on aurait plus facilement confié un lieu du travail au metteur en scène Lagarce qu'à l'écrivain.
Bien sûr. Bon, ben là, Jean-Louis n'écrit pas de pièces, tu vois, il est directeur metteur en scène, et puis il a essayé, hein. Bon, il l'a fait avec Robotier, il l'a fait un peu avec Corman, Serena, il est quand même à l'origine. C'est vrai, je me rappelle très très bien de Jacques arrivant dans les répétitions de Zouko, donc ça remonte à 95. Et voilà, à la sortie de la répétition, la première répétition du cours, oh, je vais écrire pour le théâtre, alors là ça me plaît beaucoup, hein. Je peux rester une semaine de plus. Il est resté une semaine de plus, après il s'est mis dans son cabanon, et puis il y a eu des allers-retours comme ça autour de Rimmel, il a travaillé
la
avec
pièce de Jacques Serena.
Voilà, la pièce de Jacques Serena, il a travaillé avec Sylvie Millot, Jean-François Perrier, Jean-Claude Borada, moi-même, Roland Sassy, et puis il y avait ce jeu de... il nous donnait 4 ou 5 pages, on travaillait, il repartait en écriture, il revenait, bon... Jamais Jean-Louis n'a éprouvé le désir, alors qu'il est vraiment à l'initiative de l'écriture de Jacques Audet. Il n'a jamais fait le pas de le monter. Il faudrait lui poser la question à lui. Il n'a jamais été capable de le faire. Et pour l'instant, Jean-Louis, le seul contemporain qu'il ait monté vivant, c'est Personne Grâce, quoi. C'est Norel. Le reste, c'est des contemporains, mais qui ont tous disparu. Alors peut-être à Nanterre, peut-être. Moi je lui dis.
Nanterre est quand même le lieu mythique de la fabrication de relations écrivain-metteur.
Je lui dis, oui, c'est je lui dis. Alors il pense, oui, bien sûr. Alors il pense à des gens qu'il aime bien. Lionel Spicher, des noms comme ça. Et puis il faut qu'on en croise beaucoup, il faut qu'on en lise beaucoup. Il faut absolument le faire.
Oui, parce que paradoxalement, sur les écritures contemporaines, on a une sorte de discours prêt à l'emploi un peu plaintif, un peu. Récriminatoire, tu sais,
oui.
Justement, là, l'ensemble des auteurs qui ont signé ce texte en disant
que je voulais
rond-point.
Oui, oui, bien sûr.
Évidemment, j'ai raison d'alerter sur une situation, comme on disait, en effet complexe, un peu marginalisée, mais en même temps, il se fait beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans une phase de pénurie ou de sinistrose.
Je crois pas.
Des écritures d'aujourd'hui.
Non, je crois pas.
Il s'écrit beaucoup de choses. Après, la question, c'est de.
Oui, c'est la question
de la viabilité, la diffusion, la durée de ces choses-là. C'est vrai que c'est souvent terriblement fugace, très difficile de l'inscrire dans la durée.
En tout cas, j'espère qu'on va travailler à ça à Nanterre, qu'on aura les moyens de produire des écritures contemporaines. Enfin, je veux dire des auteurs là maintenant qui peuvent être là, travailler avec nous, suivre, écrire des choses autour. Être présent pour parler de leur écriture aussi, et traverser les maisons, quoi, c'est-à-dire...
Puis je pense quand même, c'est une question qu'on pose pas souvent, mais pour l'acteur, le fait de créer un rôle, c'est-à-dire d'être véritablement celui qui pour la première fois, dit les mots fatalement, il me semble qu'il ne peut pas ne pas penser que l'écrivain l'a fait pour lui. qu'il est la créature, ouais, d'une certaine manière.
Moi, j'en ai fait pas mal. J'ai fait Tancrode d'Horst, j'ai créé le Moi Feuerbach à Paris avec Robert Rier. J'avais fait une pièce de William Hoffman aussi, Aziz. Je commence à avoir dans ma bibliothèque 5-6 pièces qui ont été dites pour la première fois en France.
Par toi.
Par moi et d'autres, avec mes camarades, mais quelques-unes quand même maintenant.